Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre Lonely Planet Guide Tenerife. En quelques jours 2025-2026, s'inscrit dans la collection des guides de voyage compacts pensés pour les séjours courts. L'ouvrage vise à donner une vision claire et immédiatement exploitable de Tenerife, la plus grande des îles Canaries, en combinant repères pratiques, sélection de sites incontournables et indications de terrain. Son format poche et sa présentation en couleur répondent à un usage de voyageurs en déplacement, qui cherchent à optimiser son temps sans se perdre dans un nœud documentation trop dense. Le livre met l'accent sur les secteurs les plus visités de l'île, comme le parc national du Teide, Santa Cruz, la Laguna, Puerto de la Cruz ou la Orotava, tout en proposant des idées de plage, de randonnée, de sorties en famille et d'activités nautiques. Il fonctionne donc moins comme un guide exhaustif que comme un outil de repérage rapide, orienté vers l'organisation concrète d'un court séjour. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, un guide de format poche conçu pour la mobilité du voyageur. L'un des intérêts principaux de ce guide tient à sa conception matérielle. Lonely Planet l'a pensé pour être transporté facilement, consulté rapidement et utilisé tout au long d'un séjour. Bref, le format réduit, la mise en page colorée et la présence de cartes en font un compagnon de terrain plus qu'un livre de lecture approfondie. Cette logique est cohérente avec le type de voyage auquel il s'adresse des visiteurs qui veulent un aperçu fiable sans devoir emporter un ouvrage volumineux. Le guide inclut aussi un plan détachable de l'île, élément utile pour se repérer entre les différentes zones de Tenerife. Même si certains lecteurs jugent la carte trop sommaire, cette tension entre compacité et précision est caractéristique de la collection. Elle favorise l'accessibilité immédiate, mais accepte de sacrifier une partie du détail cartographique. En ce sens, le livre se distingue comme un outil pratique pensé pour accompagner les déplacements quotidiens plutôt que pour préparer un séjour de longue durée dans le moindre détail. Deuxièmement, une sélection ciblée des lieux majeurs de Tenerife. Le guide ne cherche pas à recenser tout Tenerife, mais à organiser la découverte autour de points d'intérêt considérés comme essentiels. Les pages consacrées au parc national du Teide occupent une place centrale, ce qui est logique puisque le site concentre une partie de l'identité naturelle de l'île. Le livre met aussi en avant des lieux urbains et culturels comme Santa Cruz de Tenerife, la Laguna, Puerto de la Cruz et la Orotava, afin de montrer que l'île ne se limite pas aux stations balnéaires. Cette sélection crée une lecture structurée du territoire. Chaque ville ou zone est présentée comme une porte d'entrée vers un aspect particulier de Tenerife, qu'il s'agisse de patrimoine, de musées, de jardins botaniques ou d'architecture locale. Le choix éditorial est important car il aide le voyageur à hiérarchiser ses visites. Au lieu d'accumuler les noms, le guide propose une carte mentale claire de l'île, utile pour construire un itinéraire réaliste sur quelques jours. Troisièmement, entre nature volcanique, plage et randonnée, une vision équilibrée de l'île. Le livre met en évidence la diversité des paysages de Tenerife en articulant trois dimensions complémentaires, le volcan, le littoral et les sentiers. Le Teide et ses environs incarnent la force géologique de l'île, tandis que les plages rappellent son attrait balnéaire. Entre les deux, les randonnées servent de lien logique, car elles permettent d'explorer l'intérieur des terres et d'observer la variété des milieux. Ce choix éditorial évite de réduire Tenerife à une destination de station touristique. Il insiste au contraire sur la possibilité d'alterner activités physiques, contemplation paysagère et détente. Les sections sur les jardins, les promenades à pied et les activités nautiques renforcent cette lecture plurielle. Pour le lecteur, le bénéfice est clair, le guide aide à comprendre que la valeur du séjour repose moins sur un seul type d'expérience que sur la combinaison de plusieurs registres. C'est cette articulation entre nature spectaculaire et usage touristique concret qui donne sa cohérence au livre. Quatrièmement, une approche culturelle accessible à l'architecture, histoire, botanique et gastronomie. Au-delà des paysages, le guide introduit des clés de lecture culturelle qui enrichissent la visite sans la complexifier inutilement. Les zooms thématiques sur la botanique, l'architecture, l'histoire et la gastronomie permettent de donner du sens aux lieux visités. Cette approche est particulièrement visible dans les mentions de musées, de jardins et de maisons traditionnelles comme la Casa de los Balcones, qui illustre la manière dont l'île combine patrimoine urbain et tradition locale. En intégrant aussi les bars de quartier, les tascas et quelques repères culinaires, l'ouvrage dépasse la simple liste d'adresses touristiques. Il propose un accès modéré à la culture locale, adapté à des lecteurs qui souhaitent comprendre l'environnement, sans passer par une analyse savante. Cette dimension culturelle est importante, car elle transforme le séjour en expérience plus lisible. Le voyageur ne regarde pas seulement des sites, il apprend à reconnaître des formes de vie, des usages et des identités propres à Tenerife. En dernier lieu, un guide utile mais volontairement sélectif, avec des limites assumées. La principale force du livre est aussi sa limite, il privilégie la synthèse. Les avis lecteurs convergent souvent sur son utilité pour un court séjour, sa portabilité et sa clarté générale, mais soulignent aussi un manque de profondeur sur certains points. La carte est parfois jugée incomplète, et plusieurs utilisateurs notent que certaines villes ou indications mériteraient davantage de précision. Ce constat n'invalide pas le guide, mais précise sa fonction réelle. Il sert très bien à donner des repères, à construire une première idée de l'île et à organiser des déplacements simples, mais il ne remplace pas une documentation détaillée pour explorer Tenerife de manière exhaustive. Cette limite le rend toutefois cohérent avec sa promesse éditoriale, offrir un compagnon rapide, pratique et visuel pour des visiteurs qui ont peu de temps. Dans sa catégorie, il se distingue donc moins par l'abondance d'informations que par sa capacité à orienter efficacement un séjour bref. En conclusion, ce guide s'adresse surtout aux voyageurs qui préparent un séjour court à Tenerife et qui recherchent une synthèse claire plutôt qu'une encyclopédie locale. Il conviendra bien aux lecteurs qui veulent repérer vite les incontournables, construire un itinéraire simple, trouver quelques adresses utiles et disposer d'un support facile à transporter sur place. Son principal avantage est de combiner une vision globale de l'île avec des indications pratiques immédiatement mobilisables, ce qui le rend particulièrement pertinent pour un premier voyage ou une escapade de quelques jours. Il peut aussi intéresser les personnes qui aiment les guides visuels, structurés et rapides à consulter pendant les déplacements. Par rapport à d'autres ouvrages plus détaillés, il se distingue par sa légèreté, son orientation terrain et sa capacité à condenser l'essentiel sans alourdir la préparation. En revanche, il faut l'aborder comme un outil de repérage et non comme une source exhaustive. C'est précisément cette position intermédiaire entre carte mentale de l'île et guide pratique de poche qui fait sa valeur dans la catégorie des guides de voyage court séjour. Si vous souhaitez soutenir Lonely Planet, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.